Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est Émilie Delance qui a proposé à Franck Ferrand le thème du rendez-vous d'aujourd'hui au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Émilie nous demande d'évoquer l'une des plus célèbres escroqueries de tous les temps, l'affaire Vrain-Lucas. Ça tombe bien, Michel de Decker lui a consacré un ouvrage entier il y a peu de temps. En tout cas, l'ouvrage est un petit peu ancien, mais il vient d'être réédité en collection de poche. Michel de Decker sera notre invité.
Par ailleurs, Basile nous dit, après votre émission sur les 70 ans du Parisien, je me suis demandé quel a été le premier journal d'actu française.
Eh bien, on va bien sûr répondre à Basile. Pour le moment, je vous propose de revivre ensemble cette énorme arnaque.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
L'escroquerie n'a pas d'âge et les arnaques existaient peut-être, existaient sans doute, avant même qu'il y ait des chroniqueurs pour en rendre compte. Je pourrais vous parler de combines antiques, de grenouillages médiévaux, de magouilles du temps des rois. Mais l'arnaque dont il est question aujourd'hui a vu le jour dans la France du Second Empire. Dans cette France affairiste et peu scrupuleuse de Napoléon III. Oh, notre histoire, disons-le, pourrait être un roman de Zola. Mieux, ce serait une pièce de Labiche. Le premier personnage à entrer en scène, alors il est vraiment très représentatif de son temps. C'est une célébrité. C'est un des grands esprits de l'époque, le scientifique Challes. Les matheux connaissent Challes, hein, évidemment, on connaît tous plus ou moins. En tout cas, on a le souvenir scolaire de la relation de Challes. Mais c'est un grand monsieur, professeur de géodésie à l'école polytechnique, membre de l'Institut de France, évidemment, et membre aussi de l'Académie royale de Belgique. Il collabore à toutes sortes de revues savantes. Bref, c'est ce qu'on pourrait appeler une sommité, un scientifique célébré, respecté, officier de la Légion d'honneur, etc. Dans les premières années du Second Empire, nous dit le bon G et le nôtre, Michel Challes, à 68 ans, avait atteint les plus hauts sommets de la renommée. Non point que son nom fût acclamé du grand public à l'égal de celui d'un Ponson du Terrail ou d'un Timothée Trim. Ses travaux étaient appréciés seulement d'un petit nombre de grands esprits. Il devait sa réputation à certaines études sur, je cite, « la transformation du cercle en ellipse » qui avait fait sensation dans le monde des mathématiciens. Ça, évidemment, on se demande dans quel autre monde aurait pu faire sensation un traité du même genre. Il était réputé comme possédant l'esprit le plus lucide, l'imagination la plus disciplinée, le sens critique le mieux averti, la clairvoyance la plus éveillée. C'est un monsieur, vous l'aurez compris, qui n'a vraiment plus rien à prouver. Quand commence notre affaire en 1861, il a déjà 67 ans. Il a quand même un petit point faible, ce grand scientifique, cet académicien, ce monsieur très respecté. Il a une marotte, c'est un collectionneur invétéré. Voilà ce que nous dit Michel de Decker. Tout au long de sa vie, il avait publié des livres, plus exactement des traités ou des mémoires relatifs à sa spécialité, la géométrie. Cependant, il était animé d'une passion bien plus dévorante que celle des mathématiques pures. C'était un collectionneur maniaque, exalté, un amoureux éperdu des lettres et des signatures de personnages célèbres, voire toucher l'écriture d'un roi, d'un écrivain, d'une favorite, d'un savant ou d'un guerrier le rendait presque fou. Vous l'aurez compris, le grand Challes collectionne les autographes. Il y en a encore des gens qui aujourd'hui collectionnent les lettres manuscrites, les autographes, les traités écrits de la main même de ceux qui sont censés avoir l'étincelle divine. Alors, changement de décor. Je voudrais vous présenter maintenant quelqu'un qui n'a rien, mais alors a priori en tout cas, rien à voir avec le grand Challes. C'est le petit Vrain-Lucas. Il s'appelle Denis Vrain-Lucas. Alors lui, changement de décor, changement de costume, changement de tout, évidemment. Il est d'un milieu tout à fait modeste, pas du tout un intellectuel. Il est né en 1816, c'est le fils d'un journalier. On est vraiment tout en bas de l'échelle sociale, là. Un journalier, c'est un travailleur agricole, si vous voulez, qui habitait à Lanneray, près de Châteaudun. Il a quand même appris à lire, ce petit Vrain-Lucas. Il a appris à écrire à l'école de son village. J'allais dire, est-ce qu'il y a appris à tricher? Peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un esprit bien plus que malin, au point qu'il va devenir clerc d'avoué, s'il vous plaît. Et mieux que ça, au tribunal de Châteaudun, on va en faire un employé modèle, quasiment. Il sera commis au bureau des hypothèques en 1847. Et il n'est pas nommé par erreur, puisqu'il va rester commis aux hypothèques pendant 5 ans. Pendant toute cette période, il lit énormément. C'est quelqu'un, vous savez, c'est un autodidacte. Il n'a pas eu, lui, la chance de faire de grandes études, etc. Alors, il se nourrit de ce que les circonstances peuvent lui apporter. Il lit énormément, il emprunte des livres, etc. Et évidemment, comme toutes ces figures-là, il est littéralement attiré comme le papillon par la lampe, attiré par la grande ville. Il veut monter à la capitale. Il va quitter sa province pour Paris en 1852. Et là, on le retrouve dans un cabinet de généalogiste, figurez-vous. Faut pas oublier qu'on est au 19e siècle, dans cette période charnière entre l'époque où la noblesse fait et veut tout et l'époque, celle du 20e siècle, où on s'en moque un peu. À l'époque, on est encore très très pointu là-dessus et il y a des gens qui sont prêts à payer cher et même très cher pour obtenir des preuves de noblesse, pour qu'on puisse prouver qu'ils ont deux très nobles ascendants. Le cabinet Courtois-Letellier fut signalé au moment de l'établissement de la salle des croisades au palais de Versailles. Vous savez que c'était Louis-Philippe qui avait monté cette salle des croisades et il avait fait figurer les armes de toutes les grandes familles de France. Seulement pour avoir ces armes dans la salle des croisades de Versailles, il fallait pouvoir prouver sa noblesse. Eh bien, cette officine, justement, avait à l'époque, dit-on, fabriqué un certain nombre de faux titres. Elle avait falsifié certaines généalogies. Alors, est-ce que c'est là que Denis Vrin-Lucas a découvert qu'il existait des faux et qu'il était possible de falsifier des documents, c'est possible. Son rôle, lui, à l'époque, sa mission, c'était d'aller dans les familles et d'offrir à ces familles les services du cabinet, moyennant bien sûr un pourcentage, une rétribution. Et pendant ses loisirs, Vrin-Lucas fréquente les bibliothèques. Il se cultive. Il était un lecteur assidu, nous dit Michel de Decker, habitué des lieux en excellents termes avec les gardiens et les préposés. C'est important quand tous ceux qui ont fait des recherches en archives ou en bibliothèque savent à quel point il faut être en bon terme avec la personne qui tient la salle de lecture. En réalité, s'il hantait les bibliothèques, car il fréquentait tout aussi régulièrement l'Arsenal, Sainte-Geneviève ou la Mazarine, ce n'était pas dans le but de s'instruire. Il passait un temps fou sur les livres, les grimoires anciens ayant sa préférence, et il étudiait davantage le contenant que le contenu, nous dit Michel de Decker. Il était séduit par l'objet, non par la science. À vrai dire, il avait besoin de livres, et il lui arrivait parfois même d'en dérober un, froidement, par mégarde.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Du film L'Arnaque. Et justement, revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur l'affaire Vrin-Lucas.
Allez, troisième acte, arrive le moment, j'allais dire fatidique, non, le moment réjouissant de la rencontre entre ces deux personnages. Alors selon les historiens, elle n'a pas lieu tout à fait au même moment. J'ai le nôtre veut que la rencontre ait eu lieu en 1861 et que Vrin-Lucas ait été reçu par Charles dans son cabinet à Paris. Alors pourquoi l'aurait-il reçu? Eh bien parce qu'il avait une lettre de recommandation, il était de Châteaudun et Charles, lui, était de Chartres, alors ça crée des liens. Le nôtre nous décrit le petit bonhomme qui rentre dans le cabinet du grand savant. C'était un petit homme de 45 ans à peu près, aux yeux vifs, au visage rasé, aux manières polies, déférentes, presque doucereuses. Mais un peu d'obséquiosité ne choquait pas de la part d'un si infime personnage. Eh oui, par rapport au grand mathématicien qu'était Charles, bien entendu. Et Vrin-Lucas aurait apporté, nous dit le nôtre, une page de Molière, une de Rabelais, une de Racine. Michel de Decker a une version beaucoup plus pointue et beaucoup, à mon avis, beaucoup plus convaincante. Il place la rencontre un peu plus tard, en 1867, à la Bibliothèque impériale, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France, comme si on risquait de se tromper d'ailleurs sur le pays dont il était question. À l'époque, donc, cette Bibliothèque impériale. Alors, Challes a réservé un livre, il compte bien le consulter. C'est un grand monsieur, encore une fois, hein, il est membre de l'Institut, donc généralement, quand il arrive, on lui fait une courbette, on lui donne tout de suite son livre, vous voyez un peu comment ça peut se passer, évidemment. Ah oui, sauf que là, on lui dit « Ah, monsieur Challes, monsieur, comment faire, cher maître ? Votre ouvrage a été emprunté. » Comment ça, emprunté ? Eh oui, alors là, Challes entre dans une colère folle. Challes se mit à faire les 100 pas, impatient, nous dit Michel de Decker, tandis que le bibliothécaire de l'étage s'éloignait vers Vrain-Lucas. Celui-ci, complice, remercia d'un clin d'œil discret, fit semblant de parlementer un peu, puis se leva enfin et s'approcha de Challes que cette comédie avait laissé indifférent. Et Vrain-Lucas lui dit « Oh, mais monsieur, évidemment, je comprends très bien que vos intérêts sont plus importants que les miens. Prenez le livre, je vous en prie. » Il s'agissait en l'occurrence d'un traité de géodésie de François Arago. Alors Challes dit « Mais non, mais si. » Et pendant qu'on parle, le regard de Challes, n'oubliez pas que c'est un collectionneur, que c'est un passionné, ça tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Le regard de Challes glisse vers une feuille qui se trouve, un papier qui se trouve là, sur le bureau à la place de Vrain-Lucas, et il reconnaît une écriture ancienne, il s'approche encore un petit peu. Non seulement c'est une écriture ancienne, mais n'importe qui d'un peu versé dans le monde des autographes reconnaîtrait l'écriture célébrissime, la grande écriture pointue de Rabelais. Alors c'est une lettre de Rabelais, alors attention, c'est pas rien du tout. C'est une lettre où Monsieur Rabelais parle de Gargantua à un certain Martin Luther. Vous imaginez un petit peu, c'est quand même pas rien. Alors, évidemment, Challes est complètement bouleversé. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, moi je ne fais, vous savez, des recherches que pour un collectionneur. Je ne suis que courtier, lui explique Vrain-Lucas. En fait, il y a tout un lot de vieux papiers qui proviennent d'une ancienne, une vieille famille qui s'appelait les Bois-Jourdain. Oh, c'était des aristocrates qui ont été complètement ruinés au moment de la Révolution. Ils ont été obligés de partir en Amérique, vous comprenez. Et là, le nôtre décrit la chose. Il dit, ces documents précieux, embarqués pour l'Amérique à l'époque de la Révolution, étaient restés longtemps à Baltimore. Les descendants des Bois-Jourdain désiraient rentrer en possession de ces trésors. Le bateau qui les ramenait en France fit naufrage et la plupart des documents trempés par l'eau de mer étaient maintenant presque illisibles. Ah bah écoutez, avoir une lettre de Rabelais à Martin Luther, c'est déjà pas mal, mais alors si en plus il fallait qu'elle soit en bon état, bon... C'est inouï, mais combien en auriez-vous comme ça, dit Challes ? Vous imaginez la relation qui va naître, évidemment, entre ces deux personnages. C'est tout simplement inespéré, ça, pour Challes. Alors, on lui commence par lui montrer des choses crédibles, des lettres, des courriers de Madame de Pompadour, qui, je me permets de vous le rappeler, écrivait jusqu'à 60 lettres par jour. Donc, pourquoi pas ? De Montesquieu, de Louis XIV. Ça, c'est déjà plus étonnant que des lettres de Louis XIV se promènent comme ça, mais enfin, on en trouve, effectivement, sur le marché. De Molière. Alors là, ceux qui savent ce que je pense de Molière éclateront de rire parce qu'on ne possède précisément aucune ligne de la main de Molière. Mais enfin là, en l'occurrence, pourquoi pas. Et puis de Jacques Ier d'Angleterre et de Shakespeare et d'Henri IV. Une lettre de Charles Quint à Rabelais. Décidément, il avait une correspondance avec toutes les sommités de son temps. Et Machiavel, Erasme, et pourquoi pas Gutenberg et Laurent de Médicis, hein, Laurent le Magnifique et Louis XI. Il y a même, tenez-vous bien, attention, une lettre de Jeanne d'Arc pour avertir les Parisiens, leur dire qu'il faut qu'ils résistent. Et elle dit qu'elle va arriver bientôt pour les sauver, n'est-ce pas ? Il y a une lettre d'amour, alors là cette fois d'Agnès Sorel à Charles VII. Il y en a une autre un peu plus présentable à Jacques Coeur. Il y a une lettre de François d'Assise qui visiblement ne se contentait pas de parler aux oiseaux. Une autre de Blanche de Castille, mais même de Dagobert et de Charlemagne et de Virgile et d'Ovide, du philosophe Cicéron, vous imaginez ? Attendez. Il y a un billet doux du philosophe Pythagore à la poétesse Sappho. Il y a même mieux. Moi, je trouve que ça, c'est le sommet. Alors évidemment, il faut vous imaginer que tout ça se fait dans la durée. Vrain-Lucas ne libère, ne montre ses trésors que l'un après l'autre. Il les distille savamment, évidemment. Il a compris que le secret d'une arnaque réussie, c'est d'intégrer la dimension du temps. Mais il y a une lettre incroyable. C'est celle d'Alexandre le Grand à Aristote où il fait l'éloge de la Gaule. Il y a même, alors là, attention, tenez-vous bien, un fragment des mémoires de Vercingétorix. D'ailleurs, il y a une lettre de Jules César qui propose à Vercingétorix d'entamer le combat. Ben oui, parce qu'on va pas se regarder comme ça dans le blanc de l'œil pour le restant des siècles. Une lettre de Cléopâtre à Jules César où elle parle de leur fils Césarion. Il y a même mieux. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Il y a une lettre de menace de Caïn à Abel. Alors vous allez me dire, mais enfin quand même, Charles doit bien se douter qu'à l'époque de Caïn et d'Abel, on n'avait ni papier ni crayon. Mais oui, mais non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, toutes ces vieilles lettres, tous ces documents tellement précieux, sont rédigés en vieux français. Parce que le principe, c'est que le savant Alcuin, vous savez, au temps de Charlemagne, Alcuin était le conseiller principal de l'empereur. Eh bien, ce grand Alcuin, c'est lui qui est à l'origine, dit-on, de l'école et tout ça, il avait formé cette collection de lettres anciennes qu'il avait déposées dans une abbaye de Tours. Et 7 siècles plus tard, c'est Rabelais qui avait dépouillé tout ça, qui en avait fait des traductions. Bref, grâce à Rabelais, on était en possession de toute la mémoire de l'humanité.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur la gigantesque arnaque de l'affaire Vrain-Lucas.
Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est d'imaginer Vrain-Lucas dans le secret de son officine en train de fabriquer toutes ces extraordinaires lettres. Hein. Il avait de la documentation, nous dit Michel de Decker. Hein. Il avait notamment le dictionnaire critique et biographique de l'histoire. Bah oui, il faut quand même avoir un peu de source, il faut savoir de quoi on parle. Un volume de plus de 1000 pages tout de même. Et puis alors tout un arsenal de bon, d'encre, de plumes, d'huile, de colle, de vernis, enfin de toutes sortes de ce qui peut permettre de fabriquer des documents, bien entendu, et des bougies et de l'encre et du pétrole et tout ce qu'il faut pour donner l'impression aussi que ces documents avaient péri, n'est-ce pas, qu'ils avaient été naufragés. Enfin, c'est un, en quelque sorte, on pourrait dire, de Vrain-Lucas, comme d'un certain nombre d'autres faussaires dont j'ai eu ici même l'occasion de vous parler jadis et naguère, on pourrait dire qu'il est un faussaire de génie. C'est un artiste dans son genre. Michel de Decker, qui d'ailleurs l'appelle le prince des imposteurs, nous dit qu'il ne se voyait pas comme un vulgaire contrefacteur, mais comme un génie créatif. Jusqu'ici, il s'était amusé. Il avait suivi son imagination, écouté son inspiration, laissé libre cours à sa fantaisie. Mais avec Charles, il changeait de registre. Troquait la comédie légère pour la tragédie antique. Il n'avait été que prime sautier jusque-là. Il lui faudrait désormais faire dans le grandiose. Alors, évidemment, vous imaginez que des documents d'une telle importance, une lettre d'Alexandre à Aristote parlant des Gaulois, ça se paye, évidemment, ça vaut très cher. Et dans un premier temps, c'est le porte-monnaie de Monsieur Charles qui va pâtir de toute cette affaire. Et puis petit à petit, et c'est d'une certaine manière beaucoup plus grave, au-delà de son porte-monnaie, c'est sa réputation. Parce que, et là c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, Charles ne va pas se contenter de garder tout ça pour lui. Ça, c'est souvent la faiblesse des collectionneurs, d'ailleurs. Ils sont tellement contents des objets qu'ils possèdent. Ça sert à rien d'avoir des choses tout à fait extraordinaires si vous ne pouvez pas les montrer, si vous ne pouvez pas en faire état. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Charles. Il va tirer de tout ce qu'il achète un certain nombre de conclusions d'ordre historique. Et lui, qui jusqu'alors avait été esprit de géométrie, va vouloir se faire esprit de finesse. Lui, qui jusqu'alors avait travaillé dans les théorèmes et dans les démonstrations, va se mettre à vouloir réviser l'histoire. Et le voilà qui, preuve à l'appui, n'est-ce pas, affirme que Galilée n'était pas aveugle à la fin de sa vie et qu'il en rajoutait pour échapper à l'Inquisition, qu'il travaillait sur un télescope avec lequel on pouvait observer la marche d'un satellite vers Saturne. Un projet qui ensuite avait été expédié. Alors pas n'importe qui, parce que alors, si l'on en croit Vrain-Lucas, tous les grands personnages d'un siècle correspondent entre eux. Donc là, en l'occurrence, ça avait été envoyé à Blaise Pascal, à Christian Huygens en personne. Enfin bon, bref, Monsieur Charles pouvait prétendre que l'histoire des sciences, jusqu'à lui, nous avait été mal racontée. Et il va, dans la séance à l'Académie, hein, cette fois, une première séance du 8 juillet 1867 à l'Académie des sciences, il va proposer quatre lettres du poète français Jean de Rotrou, dont deux adressées à Richelieu, dans lesquelles il demande au cardinal de créer à Paris une société de lettrés et de savants, l'ancêtre de l'Académie des sciences créée en 1666. Vous imaginez bien qu'il faut se mettre à la place des académiciens, c'est formidable ça. Ils ont l'origine, la toute première idée, le premier jet d'esprit d'où est née leur société, d'où est née leur vénérable compagnie. C'est extraordinaire. Et puis, la semaine suivante, le 15 juillet, ce sont deux lettres de Blaise Pascal qui sont présentées aux vénérables esprits. Des lettres de Pascal au chimiste anglais Boyle. Et puis également quatre notes signées Pascal sur la gravitation universelle. Alors là, quand même, parce que ce qui est dit là-dedans est tellement impensable qu'il y a un certain nombre, vous savez, quand même, on est à l'Académie des sciences, il y a des gens qui font profession de doute dans tout ça. Alors, on commence à avoir un certain scepticisme. Un homme, le très grave mathématicien Constant Duhamel, écrit Michel de Decker, répétiteur d'analyse à l'École Polytechnique et membre de l'Académie des sciences depuis 1840, avait trouvé parfaitement ridicule la démonstration faite par Charles sous la coupole. Mais bientôt, le scandale va prendre de tout autre dimension, parce que quand on a découvert des documents d'une telle importance, évidemment, ça ne concerne pas seulement la France. Vous imaginez bien que c'est l'histoire de l'humanité tout entière qui est concernée. Et donc, ça va transpirer hors des frontières, bien entendu. Et là, il y a un problème, parce qu'on est en train de nous démontrer que Pascal avait tout découvert de la gravitation avant Newton. Ça pose un problème, ça, quand même. On ne va pas s'attaquer impunément à celui qui est l'anglais le plus célèbre, le plus auguste, à Newton en personne. Non, non, non. Ça, les scientifiques anglais ne sont pas d'accord du tout. Ils demandent des preuves. Et puis, alors, viennent se greffer là-dessus les scientifiques italiens et néerlandais qui s'interrogent aussi sur les documents de Galilée, etc. Il y a une discussion passionnée qui va durer 2 ans jusqu'à ce que le 9 septembre 1869, Monsieur Vrin-Lucas soit arrêté. 4 jours plus tard, devant l'Académie des sciences, Charles va être obligé de reconnaître qu'il est peut-être allé un peu loin dans ses interprétations. Tout le monde le regarde ou n'ose le regarder, parce que la vérité, et ce que pensent très fort la plupart de ses collègues, c'est qu'il est allé surtout très, trop loin dans la crédulité. Bonjour Michel de Decker.
Bonjour.
Plus de 27 000 pièces émanant de 660 personnalités ont été vendues par Vrin-Lucas pour la somme quand même de 140 000 francs. Je crois qu'on peut parler d'arnaque du siècle.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Denis Vrin-Lucas, avec votre invité Michel de Decker, écrivain et historien, auteur du Prince des imposteurs aux éditions de Boré.
Voici ce qu'à l'époque l'abbé Moigneau écrit dans la revue Les Mondes. Les lettres sont étourdissantes, écrasantes, on ne sait plus où l'on est et le faussaire devient absolument impossible. Ce serait plus qu'un demi-dieu. Un certain nombre des 2000 lettres en possession de Monsieur Charles portent la date d'un lieu, d'une année, d'un mois, d'un jour. Qu'on consulte l'histoire ou les mémoires du temps, et l'on constatera qu'à l'époque assignée, le personnage qui écrit ou a écrit ou à qui l'on écrit était bien au lieu indiqué. Comment le faussaire aurait-il pu connaître le lieu réel d'habitation de tant de correspondants ? Ce serait tout de même plus qu'un miracle. Autant dire qu'à l'époque, un certain nombre de personnes vont mettre en doute que Vrin-Lucas soit un faussaire. Alors Michel de Decker, il faut qu'on revienne sur toute cette histoire. D'abord, vous n'en doutez pas du caractère du faussaire.
Naturellement, mais c'est un faussaire absolument prodigieux tout de même. Vous savez qu'on a quand même une pièce vraie dans cette histoire-là. C'est la seule lettre qui est signée Vrin-Lucas de sa main, de son nom, qui est une demande d'embauche à la Bibliothèque impériale. Et on l'a conservée.
Alors celle-là, elle est authentique, donc il faut
en
profiter.
Elle est datée de 1852, et c'est la seule qui soit véritable, signée Vrin-Lucas.
Alors bon, il y a deux façons d'envisager ce genre d'histoire. D'abord, on peut ricaner, comme tout le monde a ricané à l'époque, et ricane depuis 2 siècles. Moi, je me rappelle avoir découvert ça il y a longtemps, sous la plume de Le Nôtre, j'avais trouvé l'histoire inouïe. Évidemment, quand c'est vous qui la racontez, elle est non seulement inouïe, mais elle prend une dimension incroyable. Et c'est la deuxième dimension, celle qui, moi, me paraît plus intéressante, c'est la dimension psychologique. Il faut comprendre à qui on a affaire, en fait.
On confine avec Charles un petit petit peu à la folie même parfois, puisque imaginez-vous que Charles va, naturellement, enfin Lucas, vous l'avez raconté, est arrêté, il y a un procès, il est d'ailleurs condamné à 2 petites années de prison, une petite somme modique de 50 000 francs.
Mais en même temps, on peut comprendre que les juges aient estimé que si une sommité comme Charles s'est laissée berner, c'est un petit peu bien fait pour elle, hein, on peut dire
vrai.
Ça.
Ce qui est vrai, et d'autant que Lucas avait un avocat merveilleux, et cet avocat était payé par Charles. Charles lui avait payé Maître Heilbronner, parce que Charles était convaincu, même encore, alors que l'accusé était sur le banc d'infamie, que sa collection de lettres était vraie. Et il va mourir convaincu que ces lettres étaient bonnes. Mais oui.
C'est-à-dire que ce grand savant n'a jamais admis avoir été la victime d'un faussaire, en fait.
Il n'a jamais cru avoir été berné.
Alors, mais quand il est venu faire sa palinodie devant les académiciens, alors que disait-il ?
Il a été obligé, acculé, mortifié, parce qu'il y avait l'énorme président de l'Institut Chevreul qui était là, qui grondait, qui faisait des gros yeux. Mais Charles était complètement anéanti. Et dès qu'il va quitter l'Institut ce jour-là, en rentrant chez lui, il verra sa dame de compagnie en lui disant « Ils m'ont obligé à dire que mes lettres sont fausses ». Donc, jusqu'à la fin de sa carrière, il était convaincu que ses lettres étaient bonnes.
Alors, oui. Venons-en à la psychologie de Vrain-Lucas. Parce que la psychologie du collectionneur, l'homme qui est emporté littéralement par la fièvre collectionneuse, qui veut croire à l'impossible, parce que c'est ça la vérité, c'est un petit peu comme les gens qui vont jouer à certains jeux en croyant qu'ils vont devenir millionnaires presque à coup sûr. Bon, on finit par... C'est un besoin presque. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais qu'est-ce qui anime un type comme Vrain-Lucas pour aller bien au-delà de la petite arnaque et pour entrer dans des dimensions aussi inouïes?
Il y a une chose très prosaïque, c'est qu'il vend quand même ses lettres assez chères, puisque ça va revenir quand même quelques centaines de milliers d'euros, hein, si on veut se jouer au jeu des équivalences. Il menait un train de vie assez somptuaire quand même, hein. Il entretenait les petites danseuses du French Cancan de l'époque, évidemment, jusqu'en 70. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est que il était habité, véritablement habité. Quand il avait décidé de vivre avec un personnage, il entrait dans la peau de ce personnage. On est sûr qu'il s'habillait presque comme ce personnage, qu'il vivait comme ce personnage. Il était habité, véritablement habité. Et sa calligraphie s'en ressentait, puisque aucune lettre dans la série de plus de 20 000 n'a la même calligraphie. On ne voit pas Alcuin écrivant à Charlemagne avec les mêmes arrondis, ce sont des lettres très droites, très fermes. Cette lettre merveilleuse, qui est une lettre de Lazare, le ressuscité, à Marie-Madeleine, eh bien, la calligraphie,
c'est inouï. Mais elles existent toujours, ces lettres ?
Alors, il y en a quelques-unes à la Bibliothèque nationale, au département des manuscrits, et il y en a aussi conservées à la suite du procès au musée de la police.
Et vous les avez vues, vous ?
Oui, naturellement, on peut les caresser, elles sont belles. Et alors, ce qui est quand même stupéfiant...
Et alors, votre avis vraiment personnel, Michel de Decker, est-ce qu'elles sont crédibles ? Est-ce qu'on pourrait s'y laisser prendre ?
Certaines de ces lettres sont époustouflantes. Moi qui suis un peu collectionneur, j'aurais rêvé d'en avoir. C'est vrai qu'elles sont belles, elles sont travaillées. Mais là où Vrain-Lucas pêche quand même un petit peu par son inculture, c'est qu'elles sont toutes sur papier filigrané à la fleur de lys.
Aïe, 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 aïe. Il suffit de les mettre face à une fenêtre ou même une simple lampe.
Tout à fait, pour voir que l'ultimatum de Charles Martel, au chef des morts à la veille de Poitiers, est écrit sur un papier fleur de lysée.
C'est complètement... Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là... parce que nous voyons ça évidemment avec toutes les habitudes que nous avons prises, qui sont assez scientifiques pour le coup. Mais on est sous le Second Empire. À une époque, on viendra tout à l'heure à toute la dimension Second Empire, mais simplement à une époque où l'on redécouvre l'histoire, le passé, etc. Et où on a tendance à croire, avec d'ailleurs une certaine crédulité, à la réalité d'un certain nombre de vestiges. Nous parlions l'autre jour d'Alexandre Lenoir, qui sous la Révolution et le Premier Empire avait mis de côté tout ce qu'il avait pu sauver des désastres et de la tourmente révolutionnaire. Mais on n'est pas tellement longtemps après, on est 4-5 décennies plus tard, et on a encore la volonté de croire à la réalité des vestiges du passé. Donc il faut tenir compte quand même, hein, de tout ça.
Oui, et puis il y a le cher Jules Michelet aussi, qui est en train véritablement de ressusciter, de redonner le goût de l'histoire à l'Empire, à la France. Ça, c'est important. Michelet, c'est best best-seller sur best-seller. Et Vrain-Lucas est sous le charme de ça. Il se dit, mais on ne sait pas tout. Est-ce que l'on ne sait pas? Eh bien, moi, je vais le faire, je vais le créer. Vous savez, il n'est pas le seul. Hein. On a eu un grand conservateur d'archives nationales, qui était Monsieur Feuillet de Conches, qui a publié la correspondance de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et quand il lui manquait une pièce, eh bien, il a rédigé lui-même.
Oui, voilà.
Donc, ça n'est pas tout à fait rare.
Il n'y avait pas tout à fait la même rigueur, il faut le dire. D'ailleurs, il était tout à fait habituel, depuis la Révolution notamment, de publier les mémoires ou les souvenirs de grands personnages, sans toujours d'ailleurs leur demander leur avis, à partir d'une ou deux lettres par-ci par-là, entre lesquelles on fabriquait, hein, tout simplement. On écrivait tout ce qui manquait. C'était normal, quasiment. Oui. Donc Vrain-Lucas, il est dans toute cette mouvance.
Et il a trouvé, j'allais dire, une bonne poire, en quelque sorte.
Comment l'a-t-il trouvé? C'est ça la question. Alors, est-ce que c'était prémédité? C'est ça la...
Je crois quand même qu'il connaissait la passion de Charles pour les documents. Il avait besoin d'argent. Il savait que Charles, vivait tout à fait confortablement avec ses traitements de professeur à Polytechnique. Eh bien, il s'est dit, je vais essayer de lui vendre quelques lettres. Mais il ne s'imaginait pas, certainement, à l'origine, que ça prendrait de telles proportions. Et que surtout, ce sera l'affaire Pascal qui sera quand même la plus gigantesque affaire de Charles Vrain-Lucas.
C'est là que ça prend évidemment une toute autre tournure, c'est que Charles va vouloir rendre tout ça public. Peut-être que Vrain-Lucas imaginait que Charles garderait les lettres pour lui, non ?
Jusqu'à un certain point, parce que quand Charles était attaqué par tel académicien, tel professeur de l'Institut, il venait se confier, il allait manger avec Vrain-Lucas, il mangeait dans une petite brasserie, et il disait, vous savez, il y a un tel qui dit que c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Attendez, je vais regarder ce que j'ai dans mes papiers, disait Vrain-Lucas, et le lendemain, il arrivait avec une lettre qui venait contredire le haut membre de l'Institut de la veille. Et ça montait crescendo.
Et c'était Newton en personne, ou Pascal qui contredisait. Alors,
que Vrain-Lucas appelait Neuton, d'ailleurs.
C'est magnifique parce qu'on a l'impression que ce monsieur sorti de rien et qui travaillait avec un vulgaire dictionnaire biographique a quand même mis en échec un certain nombre de sommités et de grands esprits.
Ça a duré quelques mois
ça
tout de même cette
voilà,
histoire.
C'est ça.
Parce qu'à chaque fois il apportait un nouvel élément et Vrain-Lucas bondissait à l'estrade en brandissant un nouveau document et en disant « Alors, que pensez-vous de ça ?» hein
bon. Alors, ce qu'il faut que l'on voit de façon plus précise, et on va y venir dans un instant avec vous, Michel de Decker, c'est toute la mécanique du procès. Comment est-ce que, d'une polémique scientifique, on en est venu à un procès en justice? Qui a été condamné? Pourquoi? Quelles ont été les circonstances? On y vient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire de l'affaire Vrain-Lucas cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Michel de Decker, écrivain et historien, auteur du Prince des imposteurs aux éditions de Boré.
Ça m'amuse cette affaire parce que je me rends compte qu'en vérité, plus on parle de choses odieuses, horribles, etc., et plus on a tendance à rigoler, forcément. Parce que cette arnaque, elle est quand même assez drôle. Même si pour la principale victime, c'est-à-dire le grand mathématicien Charles, la plaisanterie a duré un peu trop longtemps. Vous ne l'aimez pas, vous Charles, c'est ce que vous me racontiez là.
Oui, parce que quand j'étais tout jeune élève en classe de 6e ou de 5e, j'avais un professeur de mathématiques qui essayait vainement de m'expliquer, vous savez, cette relation de Charles, histoire de vecteurs. AC égale AB plus BC.
Oh là, mon Dieu.
Et qui m'a pris
avec
le tableau
des petites flèches
en
sur les...
disant,
oh là
voilà,
là.
Monsieur Decker venait nous expliquer. Et il me disait, très bien, zéro. Et en fin de cours, il me rappelait, et je faisais une démonstration médiocre, bien sûr, parce que je n'avais toujours pas compris, et il me disait, très bien, nous doublons votre note. Donc j'ai détesté Charles à l'origine.
Pour ceux qui ne sont pas très doués en maths, il faut savoir que zéro multiplié par quoi que ce soit, ça reste toujours zéro. Hein.
Voilà, donc je détestais le petit père Charles avant d'imaginer que je vivrais avec lui et avec son ami Vrain-Lucas.
Comment est-ce que vous avez, si je puis dire, eu l'idée de vivre avec lui? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille?
Ce sont les lettres de Vrain-Lucas que j'ai pu voir en disant mais c'est formidable cette chose-là. Et partant de là, évidemment, j'ai recherché comment il avait pu travailler.
Ce qui serait amusant, enfin je ne sais pas, c'est une idée que je suggère à quelques éditeurs, à moins que ce ne soit déjà prévu, mais ce serait de publier des facsimilés de ces lettres en les commentant. Je pense que ce serait assez drôle entre nous.
Hein. y a du choix.
Alors, pendant très longtemps, combien de temps ça dure le commerce entre Châles et Vrain-Lucas?
Ça dure 4 ou 5 ans.
4 ou 5 ans, hein, quand même. Oui. Donc, ils se voient régulièrement. Oui. À chaque fois, Vrain-Lucas a son petit paquet de lettres de plus en plus extraordinaires, de plus en plus anciennes. Et est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, c'est un peu une drogue pour Châles? C'est-à-dire qu'il a besoin de sa ration mensuelle de...
Châles, oui, est shooté au document historique. Mais ça, il n'y a pas de doute. Complètement.
Donc, plus on lui propose des choses incroyables et plus il est heureux. Et tout ça ne s'est pas fait... Pardon, hein, mais tout à l'heure, quand j'ai parlé de la dimension temps, c'est que c'est essentiel pour comprendre ces affaires-là. Quand c'est raconté en une heure de temps, on dit, bon, c'est impossible. Il faut bien se remettre dans le temps, dans l'épaisseur du temps. C'est-à-dire que petit à petit, Châles a le temps de digérer chaque lettre. Il est possible qu'une part de sa conscience à chaque fois lui dise « Oh, mais enfin, quand même, ça me paraît un peu gros. » Mais petit à petit, ses doutes s'apaisent et puis il est mûr pour digérer une nouvelle lettre. Et tout ça est de plus en plus extraordinaire jusqu'à ce que se constitue cette collection de plusieurs centaines de lettres de Pascal, par exemple.
Ah oui, de Pascal. Mais c'est vrai qu'il y a une double personnalité en réalité chez Châles. Il y a ce savant très pragmatique, brillantissime. Et puis il y a celui qui est illuminé, complètement illuminé, dès qu'il voit un document ancien. Et Pascal.
Alors, Pascal, on parle de ce qui l'intéresse.
Oui, c'était son sucre d'orge, Pascal, parce qu'il avait déjà dans ses collections une manière de baromètre ayant appartenu à Pascal. Un encrier de Pascal aussi. Et alors, quand Vrain-Lucas a su tout ça, il a dit, mais je vais regarder, je vais vous trouver quelques lettres de Pascal. Et Vrain-Lucas, à partir de ce moment-là, a commencé à travailler sur, pas le Pascal avec les idées religieuses, pas les provinciales, n'est-ce pas, mais le Pascal scientifique, puisque ça coïncidait bien avec l'esprit de notre géomètre, car on l'appelait le géomètre. Et à partir de ce moment-là, l'affaire va prendre de l'ampleur, ça va monter comme un soufflet, véritablement.
Alors, on peut dire que ce Pascal est en quelque sorte l'idole de Châles. Et à partir de là, Châles se fait son porte-parole à travers les siècles. Et donc, il va monter à la tribune de l'Académie pour se ridiculiser, disons-le.
Pourquoi ? Parce que tous les documents conçus, imaginés et rédigés par Vrain-Lucas, d'une très belle écriture, parce que il y savait imaginer l'écriture de Pascal avec un talent fou, mais le contenu était absolument invraisemblable. On l'a vu, 25 ans avant Newton, on ne pouvait pas imaginer cette théorie. D'ailleurs, là où Châles aurait dû s'inquiéter, c'est que Pascal parlait toujours, sous la plume de Vrain-Lucas, de l'abstraction. L'abstraction terrestre, l'abstraction, pas l'attraction, mais l'abstraction.
Lui se trompait, le pauvre Vrain-Lucas, c'est ça ?
Mais oui !
Oui, mais alors ça pouvait peut-être passer pour cette espèce de relâchement d'écriture qui était propre au XVIIe siècle.
Exactement, d'ailleurs Vrain-Lucas l'ayant su, puisque Châles lui fait remarquer, il dit mais regardez,
curieux,
il dit, mais regardez, ça doit être la plume qui glisse, enfin, il avait une excuse à tout, systématiquement il se trouvait
et l'autre n'attendait que ça, évidemment.
Il attendait alors, naturellement la justification de la vérité. De ces documents.
Les collègues de l'Institut se posent des questions, ça c'est naturel, et le problème c'est qu'on met bientôt en cause un certain nombre d'esprits étrangers, on attaque Newton, oui. On attaque Galilée. Là, il ne faut pas oublier la dimension nationale du Second Empire, hein. C'est-à-dire que en fait, c'est une espèce de concours entre les puissances européennes à qui a inventé quoi.
Exactement, à tel point même qu'on a eu, on a frôlé l'incident diplomatique avec l'Angleterre, pas une nouvelle guerre de 100 ans, n'exagérons pas, mais on a dû en effet s'excuser, nous sommes excusés vis-à-vis de l'Angleterre en disant non, écoutez, c'est vraiment Newton, le coup de la pomme lui appartient, Pascal n'a rien inventé. Vrain-Lucas disait, mais c'est lui qui a guidé Newton, enfin, d'après les lettres. Mais en réalité, non. Tout est sorti de l'imagination de Vrain-Lucas. Et Châles n'a jamais voulu le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on va aller, naturellement, en justice.
Ce 19e siècle, en général, et ce Second Empire en particulier, sont le temps de tous les possibles. Rien ne paraît impensable, finalement. Il ne faut pas oublier quand même que dans le monde de l'égyptologie, pour ne citer qu'un exemple, et on pourrait multiplier les exemples dans bien des domaines, mais dans celui de l'égyptologie, il est possible à l'époque d'acheter encore des momies de pharaons, etc. Donc, après tout, pourquoi pas ? C'est-à-dire que, comme toujours, quand commence une discipline, et en l'occurrence, l'histoire, la collection des objets historiques, tout est encore possible. Ensuite, ça devient moins, évidemment. Alors, vous dites, on va en justice. Qui va en justice et pourquoi ?
Eh bien, naturellement, l'Institut porte plainte, Vrain-Lucas est arrêté, Charles va essayer de lui trouver le meilleur avocat qui soit sur
c'est
la place.
Charles qui veut défendre Vrain-Lucas pour défendre sa collection.
Oui,
en
réalité, même s'il dit non, Charles est coupable, il veut quand même faire croire à tout le monde, et surtout à lui, continuer d'être convaincu que ses lettres sont les meilleures. Et la défense de Vrain-Lucas est merveilleuse auprès de Maître Hellebrunner. Il lui dit, mais regardez, l'Empire, c'est de la France, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai écrit des lettres patriotiques. Voilà, c'est pour montrer aux Anglais qu'ils ne sont rien. C'est vive l'Empire, vive la France. Ce sont des faux patriotiques, dit-il.
Et à partir de là, on est censé passer l'éponge. Ce que feront les juges en partie, du reste.
Oui, puisqu'il est qui sont médiocrement
les
condamné.
Qui étudie, qui expertise? Il y a des spécialistes,
oui,
des
alors,
papiers anciens.
On fait venir des experts,
oui, ça,
des amateurs d'autographes également.
Etc.
Oui, tout à
des
fait.
Chartistes.
Et puis on s'aperçoit en effet que rien ne tient la route. Bien sûr que Charles se couvre de ridicule.
Est-ce que la presse à l'époque se fait l'écho du procès?
Non, la presse parle très très peu. Non. Alphonse Daudet, plus tard, viendra écrire quelques bribes, quelques articles sur cette affaire-là. Mais dans l'immédiat, non. D'ailleurs, on est à la veille de la guerre.
Oui, puisque le procès est en 69 et la guerre éclate dès l'année suivante, en 1870, hein, évidemment.
Voilà. Et Vrain-Lucas passe sa guerre en prison.
Alors, Charles, évidemment, lui, va finir ses jours, vous dites, assez tranquillement, convaincu de posséder des manuscrits authentiques.
Oui,
est-ce qu'il l'était sincèrement?
Il les lègue à la Bibliothèque nationale, qui devient un national à sa mort.
Est-ce que c'est une façon pour lui d'essayer d'échapper au ridicule, ou est-ce que vous pensez qu'au fond de lui-même, il est convaincu de la réalité des dits?
Je crois, hélas, je crains pour son intégrité mentale, mais je crois qu'il est convaincu. Jusqu'à la fin, il est convaincu.
Ouais, ça fait presque peur et à la limite, ça amène à se poser des questions sur soi-même, hein, cette histoire. On se dit, après tout, il peut arriver qu'on croie mordicus,
alors,
dur comme
quelqu'un
fer,
de brillantissime,
à des choses qui sont complètement aberrantes,
oui,
en fait.
Oui.
Et alors, Vrain-Lucas lui-même, que devient-il, ce petit bonhomme?
Alors, il est arrêté, on l'a vu,
voilà.
Et il est condamné à 2 ou 3 ans de prison.
Qu'il va faire au moment donc,
qu'il
de la
va purger,
guerre.
Oui, à Mazas, là où il y a la gare de Sterlitz aujourd'hui. Mm-hmm. Alors en prison, il va être absolument remarquable, puisque le directeur de la prison de Mazas va l'embaucher, comme il a du retard dans
commis
toute sa paperasse. Comme commis aux écritures, exactement. Et il va mener une vie tout à fait tranquille, paisible, en gagnant un peu d'argent, en établissant des factures, peut-être même des fausses factures, pour le directeur de la prison de Mazas. Ce qui est quand même quelque chose de remarquable. Il est libéré, et il va reprendre ses coupables activités.
Ah, c'est assez terrible.
Il va rencontrer tel curé dans une église, il était effondré, il pleurait, il disait « Mon Dieu, j'ai beaucoup péché ». Et le curé sympathise, et le curé lui dit « Vous savez, je crois que mes ancêtres, avant la Révolution, avaient des titres de noblesse. Je vais vous trouver ça », dit Vrain-Lucas, qui lui fabrique une fausse généalogie qu'il fait payer très cher.
Ça, c'est ce qu'il avait commencé par faire lorsqu'il était arrivé à Paris en 1852.
Quand on lui demandait, il y avait trop de recherches à faire, donc il établissait la généalogie, et on n'en parlait plus, et il gagnait très bien sa vie.
Il a été condamné à d'autres reprises.
Il a été condamné une deuxième fois, avant de s'en aller mourir en 81 ou 82, je crois. Il est retourné sur ses terres de Lanneray.
Il meurt dans l'anonymat, il faut dire ce qu'il
est. Complètement
hein.
Dans l'anonymat. Il y a aussi cette chose qu'il faut bien voir, que vous avez citée tout à l'heure, c'est qu'ils sont, comment dirais-je, ils sont pays, puisque l'un est d'Épernon, Charles est d'Épernon, à côté de Chartres, et Vrain-Lucas de Lanneray, à côté de Châteaudun.
Ouais.
Alors, on imagine ce petit Vrain-Lucas vicieux, dire à Charles, oh mais nous sommes voisins, nous sommes peut-être cousins, etc. Donc il l'a complètement bouleversé et mis dans la poche.
Je vais parler d'une pièce de la biche, on est vraiment quand même bien dans un roman
absolument.
De Zola. Hein. C'est
ah oui,
c'est
ah,
vraiment
si,
toute
oui,
cette
tout
époque extraordinaire.
Ah, oui. Qui est l'époque, sinistre et sordide. Un peu,
qui est l'époque de l'écrit, il ne faut pas l'oublier, d'où cette espèce de fascination pour les autographes, qui est l'époque des grandes collections. Car si on regarde toutes les plus grandes collections, tous les grands fonds de collection, ils ont été constitués à cette époque du Second Empire, qui est aussi l'époque où l'on essaie de s'abstraire des contingences sociales. Et en l'occurrence, dans le cas de Vrain-Lucas, il a voulu, cet homme-là, il a voulu grimper d'une certaine manière, gagner de l'argent, mais aussi gagner de la considération. Il était devenu l'ami de l'académicien Charles.
Complètement. Je suis convaincu qu'il était très content, il avait réussi sa vie, même si il a dû passer par la case prison. Quand il fait son bilan, c'est un homme heureux, Vrain-Lucas.
Alors ce livre, Le Prince des Imposteurs, a fait l'objet d'une adaptation à la télévision.
Oui, avec Michel Piccoli, merveilleux professeur Charles. Et nous avions choisi Thierry Fortino pour faire le rôle du faussaire Vrain-Lucas.
Et là, ça ressort en édition de poche dans la collection Terre de Poche, Michel de Decker, le prince des imposteurs. Il y en aurait bien d'autres. Vous devriez créer une collection d'ailleurs de, parce que Dieu sait si il y en a des imposteurs fabuleux.
Vous savez, dans les années 60, non 80 encore, il y a eu le faux journal d'Adolf Hitler qui a fait couler. J'allais dire qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est vrai.
Oui, bien sûr, et dont un certain nombre de mes confrères que je ne nommerai pas
avaient pris pour argent comptant,
n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Michel de Decker.
Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Basile et nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Basile se demande, et s'est demandé surtout après votre émission sur les 70 ans du Parisien, quel a été le premier journal d'actualité français.
Ah, je suis ravi de cette question, moi qui tout petit allais à l'école, Théophraste Renaudot. Celui qui le premier a créé un journal d'actualité en France, c'était monsieur Théophraste Renaudot. On était le 30 mai 1631 et le journal en question, c'est la Gazette. Bien entendu, un terme emprunté à l'italien, la gazzetta est en effet une monnaie vénitienne qui équivaut au prix du journal là-bas sur place. Ce qui fait que petit à petit on s'est mis à appeler les feuilles d'information vénitiennes les gazzette. Renaudot est un personnage assez extraordinaire. C'est un médecin de formation. Il croule sous les idées ingénieuses et cette dernière sera un véritable succès puisque la Gazette va continuer à être publiée jusqu'en 1915. J'ai oublié de vous dire qu'il est originaire de Châtellerault. Évidemment, tous les Châtellerodais qui nous écoutent auront d'eux-mêmes rectifié mon omission. Le petit journal de monsieur Renaudot est tiré à 800 exemplaires. Ça fait entre, ça dépend des jours, hein, entre 4 et 12 pages et on peut y lire des communiqués officiels et des nouvelles de l'étranger. Il est évident que tout ça est directement contrôlé par le pouvoir. Vous imaginez bien que le cardinal de Richelieu ne peut pas être étranger à une innovation datée de 1631. Il est tout à fait présent dans cette feuille, il en lit chaque article et on pourrait presque dire que la Gazette de Théophraste Renaudot, c'est l'organe officiel qui sort du cabinet du cardinal, bien entendu. Ce journal, qui reçoit les confessions privilégiées du Conseil du roi, est, disons-le, un instrument de propagande. Alors au moment de sa création, la Gazette n'a pas tout à fait le monopole de l'information. Il existe déjà des nouvelles ordinaires de divers endroits. Seulement, à l'époque, ces feuilles sont encore manuscrites. Et souvent, c'est la compilation d'articles qui sont traduits de l'allemand, du danois, etc. Avec l'arrivée de la Gazette, les nouvelles ordinaires vont commencer, elles aussi, à utiliser l'imprimerie. Ça ne durera pas longtemps puisque Renaudot, qui, je vous l'ai dit, est très proche du pouvoir, va obtenir d'absorber son concurrent et d'avoir un monopole. Chaque année, un livre va compiler les journaux de l'année et c'est dans l'un de ces exemplaires que Théophraste Renaudot, en guise d'introduction, déclare « L'histoire est le récit des choses advenues, la Gazette seulement le bruit qui en court. Je prie les princes et les états étrangers de ne point perdre inutilement le temps à vouloir fermer le passage à mes nouvelles dont le commerce ne s'est jamais pu défendre et qui tient en cela de la nature des torrents qui se grossit par la résistance. » Et il ajoute ailleurs « La rétention de l'information est une forme de conspiration du savoir. » Eh bien voilà une formule que nous pourrions méditer aujourd'hui.